Bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver les uns et les autres en ce dimanche. Je suis toujours frustré quand une bonne série télé s'arrête au bout d'une ou deux saisons. Ce qui est frustrant, c'est de ne pas avoir de vraie fin, de rester en quelque sorte sur sa fin. Un bon scénario devrait toujours nous amener à savoir ce que devient chaque personnage principal à la fin d'une histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne devrions pas nous demander à la fin d'une histoire, mais lui ou elle, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin? De la même manière, à la fin du livre de Ruth, nous savons comment les choses se terminent pour les trois protagonistes de l'histoire, Boaz, Ruth et Naomi. Depuis quelques dimanches déjà, nous étudions le livre de Ruth et cet après-midi, nous allons nous intéresser à la fin de cette histoire. Et permettez-moi simplement de résumer encore les chapitres précédents. À cause de la famine, Naomi et sa famille quittent Bethléem pour se rendre au pays de Moab. Et là, Élimélec, son mari, meurt, ainsi que ses deux fils qui ont épousé chacun une Moabite, Ruth et l'une d'elles. Un jour, Naomi entend dire que Dieu a mis fin à la famine en Israël. Donc, elle y retourne, donc cette fois-ci sans son mari et sans ses fils, elle y retourne et Ruth tient absolument à l'accompagner. Elles arrivent à Bethléem durant la saison de la moisson. Et pour s'en sortir, eh bien Ruth va glaner des épis dans un champ. Et il se trouve que ce champ appartient à un certain Boaz, qui est de la famille d'Élimélec. Quelle coïncidence! Alors Naomi reprend courage, elle reprend espoir. Dieu est bon, Dieu continue à être bon. Et plus tard, elle envoie sa belle-fille vers Boaz pour que Ruth demande à Boaz de l'épouser. Et cette scène se passe en pleine nuit. En tant que proche parent, Boaz a le devoir de prendre soin d'elle. Elle qui est veuve, elle qui n'a pas d'enfant. Mais tout n'est pas aussi simple, parce qu'il se trouve qu'un autre a la priorité en ce qui concerne ce que le texte appelle le droit de rachat. Et derrière cette histoire qui ne manque pas de rebondissements, Dieu est à l'œuvre. Et c'est bien lui qui conduit les événements en coulisses. Et c'est encore lui qui conduit cette histoire vers un heureux dénouement. Et il me semble que l'enseignement principal est le suivant. Quand Dieu renverse les situations, il le fait pour le bien de son peuple. Et il le fait également pour la réalisation de son projet. Quand Dieu renverse les situations, comme c'est le cas ici dans cette histoire, il le fait pour le bien de son peuple et pour la réalisation de son projet. Et si nous savons cela, de quelle manière devrions-nous vivre? Eh bien, je vous propose de voir cela en trois temps. D'abord, que nous puissions vivre en obéissant à Dieu. Ensuite, vivons en nous émerveillant de sa grâce. Et enfin, vivons en étant confiants et satisfaits. Tout d'abord, vivons en obéissant à Dieu. Nous savons par les paroles que Boaz a prononcées dans les chapitres précédents que cet homme, Boaz, est un homme qui connaît Dieu. Et c'est aussi un homme de parole. Il s'est engagé envers Ruth à régler cette affaire avec le proche parent dès le lendemain, sans attendre. Et il va le faire légalement. Nous avons ici l'exemple d'un homme qui vit en obéissant à Dieu. Et avant de regarder cela en détail, il faut d'abord que je revienne sur cette histoire de droit de rachat. Qu'est-ce que c'est que ce droit de rachat? Tout simplement parce que ce sont des coutumes qui ne nous sont pas familières. Pour faire simple, selon la loi que Dieu a donnée à Israël, la terre qui appartenait à une famille devait rester dans cette famille. Ou en tout cas, même si elle était amenée à être vendue, elle ne l'était pas définitivement. Elle devait revenir à la famille. Ça, c'est ce que nous lisons dans Lévitique 25. La terre qui appartient à une famille doit rester dans cette famille. Mais il arrive qu'en cas de pauvreté, un Israélite se retrouve dans la nécessité de vendre son terrain à quelqu'un qui ne fait pas partie de sa famille. Et dans ce cas, pour récupérer ce terrain, eh bien, un proche parent qui en a les moyens peut racheter ce terrain pour qu'il revienne à la famille. Est-ce que vous voyez ce premier cas? Le deuxième devoir qui revient à un proche parent, c'est d'épouser la veuve de son frère décédé. Si un homme meurt, son frère doit épouser sa femme. Une veuve en particulier qui n'a pas eu d'enfant. Dans quel but? Afin que le frère décédé puisse avoir une descendance, en quelque sorte par procuration. Ça, c'est ce que nous lisons dans Deutéronome 25. Et vous voyez que l'affaire que Boaz va traiter comporte ces deux volets. D'un côté, le rachat d'un terrain, et de l'autre, le mariage avec la veuve du parent décédé. J'espère que cette parenthèse notariale ne vous fait pas trop peur, mais c'est effectivement la loi de Dieu, et c'est intéressant de voir cela sous cet angle-là. Donc pendant un moment, j'avais l'impression de donner des explications comme un notaire, mais on va revenir au texte. À l'époque, les affaires de ce type se réglaient à la porte de la ville, dans cet emplacement où il y avait de la place pour s'asseoir. Et c'est là qu'on réglait les affaires. Et on lit notamment au verset 1 et 2 que Boaz installe tout le monde. D'abord le proche parent, et puis 10 hommes qu'il choisit parmi les anciens de la ville qui vont servir de témoins. Et puis tout le monde est assis et on règle cette affaire ensemble. Mais nous ne pouvons pas passer à côté de la coïncidence que relève le narrateur. Regardez le verset 1. Boaz monta à la ville, à la porte de la ville et s'y arrêta. Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé précédemment vint à passer. Comme par hasard, au moment où Boaz se rend à la porte de la ville, celui qui était concerné par cette affaire passe par là. Il me semble impossible de ne pas voir la main de Dieu dans cette heureuse coïncidence. Et assurément, ça veut dire que Dieu veut que cette affaire soit réglée ce jour-là. Et Boaz va le faire en toute honnêteté, mais non pas sans habileté. Et pour résumer, dans un premier temps, versets 3 et 4, il propose aux proches parents de racheter le terrain qui appartient à la famille d'Élimélec. Bien évidemment, s'il s'agit d'acquérir un terrain, cela ne pose pas de problème. Alors le proche parent dit « Je la rachèterai ». Et ce n'est que dans un deuxième temps que Boaz mentionne une autre clause dans ce rachat, au verset 5. En plus d'acquérir le terrain, eh bien il faudra aussi épouser Ruth, la veuve, une veuve qui n'a pas d'enfant, ce qui signifie que ce proche parent devra en plus maintenir le nom du défunt sur son héritage, c'est-à-dire faire en sorte qu'un fils né de cette union soit l'héritier du patrimoine acquis. Et voici la réponse du proche parent à cette proposition complète. Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. Le proche parent ne va pas plus loin dans cette transaction. Et en voici la raison. Je détruirai mon héritage, dit-il. Nous pouvons comprendre cela de deux manières. Soit il est en train de dire qu'avec une femme et éventuellement un enfant à charge, il devra puiser dans ses biens pour subvenir aux besoins de la famille. Et assurément, de cette manière-là, il détruit déjà une partie de son héritage. Soit il fait référence au fait que l'enfant qui naîtra éventuellement de cette union va hériter du terrain racheté et au moins d'une partie de son propre patrimoine. Donc ça veut dire que ce proche parent, en fait, est perdant dans l'histoire. Et en faisant rapidement le calcul, eh bien, il préfère céder son droit de rachat. Et vous remarquerez qu'à deux reprises ici, au verset 6, il dit « Je ne peux pas ». Et puis à l'époque, ça c'est pour la partie un peu culturelle, pour valider la conclusion de cette affaire, nous assistons à une coutume peu commune. Le proche parent donne sa sandale à Boaz pour signifier que ce dernier devient légalement celui qui a droit de rachat pour la famille de Naomi. Donc pas besoin de frais de notaire, juste une sandale. Ce que nous devons retenir de cette première partie du chapitre 4, c'est la manière dont Boaz suit la procédure. Il le fait avec honnêteté. Il le fait sans mensonge, sans chercher à contourner la loi de Dieu. Il sait qu'il y a un proche parent avant lui et il veut régler les choses honnêtement avec lui. Un commentateur précise même que, par rapport au texte de Deutéronome 25, ni Boaz, ni ce proche parent anonyme n'étaient obligés d'épouser Ruth. Ils n'étaient pas obligés de le faire, puisque ni l'un ni l'autre n'était le frère du défunt au sens strict. Or, c'est pour sortir Ruth et Naomi de leur situation précaire. C'est par amour pour elles que Boaz accepte de faire tout cela. Et l'histoire se termine bien pour Boaz. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire ? Il me semble que l'heureux dénouement de cette histoire est un encouragement à suivre les voies de Dieu, à faire les choses honnêtement. Et dans sa grâce, Dieu nous conduit parfois à une issue heureuse quand nous agissons de cette manière-là. Et je dis parfois, parce que dans le monde corrompu dans lequel nous vivons, faire le bien, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, ne nous conduit pas toujours à une issue heureuse. En tout cas, pas dans l'immédiat. Après tout, Jésus a vécu une vie parfaite, en toute obéissance à Dieu, et pourtant, il meurt sur une croix. Mais 3 jours après, Dieu le ressuscite. Et je suis convaincu, avec ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, et notamment avec ce texte, que suivre les commandements de Dieu, agir de manière juste, est toujours la bonne manière de vivre ici-bas. Quoi qu'il arrive, même si nous ne sommes pas toujours récompensés derrière. Pour le dire autrement, vivre selon la loi de Dieu en vaut toujours la peine. Il vaut toujours la peine d'être fidèle à Dieu. Toujours. Boaz a agi avec honnêteté, en cherchant vraiment l'intérêt de Naomi et de Ruth. Et l'histoire se termine bien pour lui. Cela doit nous encourager, quoi qu'il arrive, à toujours vivre dans l'obéissance à Dieu. Prenons un exemple actuel. Nous sommes dans la période où il faut déclarer ses revenus. Et c'est une info si vous n'étiez pas au courant. Nous sommes dans cette période où il faut déclarer ses revenus. Et la tentation de ne pas tout déclarer avec honnêteté existe pour chacun d'entre nous. Surtout si nous cumulons plusieurs sources de revenus. Mais il est clair que Dieu nous commande dans sa parole d'être honnête. Il est clair que Dieu nous commande de ne pas tromper autrui et ainsi de payer nos impôts. Et ne pas tromper autrui, c'est aussi agir par amour. Or, Dieu nous commande l'un et l'autre. Donc, il y a encore temps de déclarer ses revenus. Nous venons de voir qu'avec Boaz, il vaut la peine de vivre en obéissant à Dieu. En tout cas, Dieu en tient compte. Et voyons la prochaine leçon. Vivons en nous émerveillant de sa grâce. Comment l'histoire se termine-t-elle pour Ruth ? Donc, nous avons vu le cas de Boaz, mais pour Ruth, comment ça se termine ? Si jusque-là, dans les 3 chapitres précédents, Ruth était particulièrement active, Dans ce chapitre 4, elle est bien plus effacée. En tout cas, c'est le choix du narrateur. Le narrateur choisit de ne pas trop parler d'elle. Mais lorsque le peuple et les anciens qui étaient témoins de la transaction prennent la parole, c'est pour prononcer une parole de bénédiction. Bien sûr, adressée à Boaz, mais qui concerne aussi Ruth. Regardez le verset 11. « Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. » Boaz avait dit au chapitre 3, « Tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. » C'est ce qu'il dit à Ruth. Et c'est ça la réputation de Ruth depuis qu'elle est à Bethléem. C'est une femme de valeur, une femme qui est fiable, sur qui on peut compter. Et tout cela, elle l'a prouvé par son dévouement envers sa belle-mère. Et regardez à présent ce que disent les habitants de Bethléem à son sujet. Ils la comparent à Rachel et à Léa, qui sont les épouses du patriarche Jacob, l'ancêtre du peuple d'Israël. Et je vous ai mis une généalogie pour voir cela de plus près. Ce sont elles, Rachel et Léa, ainsi que leurs servantes, même si elles ne sont pas mentionnées, qui ont donné naissance à 12 fils. Et ces 12 fils, c'est à partir d'eux que la communauté d'Israël a été constituée. Donc Ruth est comparée à ses ancêtres du peuple, Léa et Rachel. Et puis dans un deuxième temps, les habitants de Bethléem souhaitent à Boaz une descendance à l'exemple de la famille de Pérets, fils de Juda. Et nous lisons cette histoire dans le livre de la Genèse, au chapitre 38. Il est aussi question d'une veuve, qui s'appelle Tamar. Et cette veuve Tamar, qui a attendu en vain, inutilement, que le frère de ses défunts maris l'épouse, et elle a dû trouver elle-même une solution. Alors je n'en dis pas plus, je vous laisserai lire cette histoire dans Genèse 38. Mais le résultat est que de l'union entre Tamar et Juda, un fils est né, Pérets. Et Juda est l'un des 12 fils d'Israël. Pour revenir aux paroles du peuple, vous remarquerez que c'est l'Éternel qui donnera une descendance s'il le veut. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et Léa. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets. Ces paroles témoignent de l'accueil que font ces Israélites d'une étrangère comme Ruth. Oui, rappelons-le, Ruth ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'est une Moabite. Et quel honneur pour elle d'être mise au rang des ancêtres d'Israël. Quand elle avait épousé Mahlon, elle était encore une étrangère. Mais en épousant Boaz, elle entre dans l'histoire d'Israël. Elle entre dans l'histoire du peuple de Dieu. Et quel privilège pour elle, qui avait dit effectivement à sa belle-mère, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Quel privilège pour Ruth. En plus de faire partie du peuple de Dieu, l'Éternel lui accorde une autre faveur, celle d'être mère. Regardez comment le narrateur en parle. Boaz épousa Ruth, elle devint sa femme, et il s'unit à elle. L'Éternel, ce mot est important ici, l'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte et elle mit au monde un fils. Quelqu'un a fait remarquer à juste titre que Boaz a épousé Ruth, puis s'est uni à elle et cela s'est passé dans cet ordre-là. À notre époque, où cet ordre n'a pas d'importance, il nous faut encore affirmer que c'est ainsi que Dieu voit le mariage et que c'est ainsi que Dieu voit la place de la sexualité dans le mariage et non pas en dehors. L'Éternel intervient cette fois en faveur de Ruth. Cela nous rappelle que c'est Dieu qui donne la possibilité de concevoir. Cet enfant est un cadeau de Dieu. Et tout enfant est un cadeau de Dieu. C'est ainsi que Dieu intègre Ruth dans son peuple. Et quelle grâce lorsque nous savons que Dieu avait interdit l'admission des Moabites dans la communauté d'Israël. La loi stipulait qu'une Moabite ne pouvait pas faire partie du peuple d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome, chapitre 23. Mais dans le cas de Ruth, la Moabite, Dieu a fait grâce à elle qui avait déclaré que le Dieu d'Israël serait son Dieu. Quel dénouement pour Ruth! Quelle grâce pour elle! Et par cette histoire et tant d'autres similaires dans la Bible, nous voyons que Dieu n'a jamais fermé la porte du salut aux gens de toute nation. Des personnes comme Ruth avaient choisi de placer leur confiance dans le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de l'univers, qui est le seul Dieu en réalité. Et depuis la venue de Jésus, l'accès au salut est largement donné aux gens de toutes les nations. Ce n'est plus le seul privilège des Israélites et de quelques étrangers. Mais Dieu déverse sa grâce, sa faveur qui n'est pas méritée sur des gens de toutes les nations. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes là cet après-midi. Comme pour Ruth, Dieu a témoigné sa grâce envers nous. Envers nous qui ne sommes pas israélites, mais qui sommes africains, peut-être antillais, français, asiatiques, arméniennes. Dieu nous a réunis, nous, gens de tous les peuples. L'apôtre Paul le dit mieux que moi. S'adressant à des chrétiens d'origine non juive, voici ce qu'il écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. « En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et c'est la situation de beaucoup de nos contemporains. Sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, et on aime toujours ces « mais » dans la Bible, « mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, loin de toutes ces promesses, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. » Par son sacrifice à la croix, Jésus nous a gagné le privilège de faire partie du peuple de Dieu. Nous ne le méritions pas, nous n'avions aucune part à une quelconque espérance. Mais dans sa grâce, Dieu nous a intégrés dans sa famille. Dieu nous a intégrés dans son peuple, dans le peuple qui lui appartient. Dans sa grâce uniquement. Et alors que nous louons Dieu, nous l'avons fait aussi tout à l'heure, alors que nous louons Dieu pour ce privilège immense, prions en même temps que Dieu accorde son salut à nos proches qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez que c'est l'un de nos projets d'Église. Comme Dieu a fait grâce à Ruth, prions que Dieu fasse grâce à nos proches. Et le dénouement pour Ruth nous révèle avec beauté la grâce immense de notre Dieu. Une grâce dont nous bénéficions aussi. Prenons juste quelques instants maintenant pour nous émerveiller encore de la grâce que Dieu a manifestée envers des pécheurs comme nous, des pécheurs de toutes les nations. Prenons un temps simplement pour prier ou bien pour lire le texte qui s'affiche et pour le méditer. Mais simplement, prenons le temps de nous émerveiller devant la grâce que Dieu nous a accordée. La manière dont l'histoire de Ruth se termine nous encourage d'abord à vivre conformément à la parole de Dieu, comme l'a fait Boaz. Et ensuite, à nous émerveiller devant la grâce qui est faite à Ruth, une étrangère qui fait désormais partie du peuple de Dieu. Quelle est alors la troisième leçon à tirer de ce dénouement ? Vivons en étant confiants et satisfaits. Comme le livre s'intitule Ruth, nous pourrions nous attendre à ce que l'histoire se termine avec elle. Elle devient mère, elle vit le parfait amour avec Boaz, et le rideau retombe sur cette scène. Mais ce n'est pas ainsi que conclut le narrateur. Les versets 14 à 17 concernent Naomi. Et au chapitre 1, le narrateur s'était focalisé sur Naomi, sur sa situation malheureuse. Et maintenant, le narrateur termine avec Naomi. La boucle est bouclée. Et en fait, ce n'est même pas elle qui prend la parole dans ces quelques versets, mais ce sont les femmes de Bethléem qui se mettent à louer Dieu. Verset 14, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'une personne ayant le droit de rachat. Que son nom soit célébré en Israël. Cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mise au monde, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Béni soit le Dieu qui bénit. La naissance de cet enfant marque le comble du bonheur pour Naomi. Elle qui avait perdu ses deux fils, elle qui n'espérait plus avoir d'enfant, se retrouve avec ce bébé dans les bras. Elle était revenue à Bethléem les mains vides, comme elle disait, et maintenant Dieu la comble. Quel retournement de situation! Quel renversement tel que Dieu seul est capable d'en produire. Naomi, la veuve, n'a plus à s'inquiéter de son avenir. Elle est bien entourée de Boaz, de Ruth, des gens qu'il aime, mais aussi de cet enfant qui prendra soin d'elle dans sa vieillesse. Naomi est comblée. Et les femmes de Bethléem reconnaissent que c'est Dieu qui a changé la situation de Naomi. Ils ne disent pas c'est un hasard ou les circonstances se sont bien déroulées et c'est très bien pour Naomi. Non, c'est Dieu qui a changé la situation de Naomi. Tout ce qui se passe du chapitre 1 au chapitre 4 nous montre comment Dieu a conduit les événements pour produire cet heureux dénouement. L'histoire de Naomi nous montre que sa situation n'était en fin de compte pas désespérée. Dieu avait un plan depuis le début. Et comme Naomi, nous avons sans doute expérimenté tant de fois la bonté de Dieu. Avez-vous en tête des situations que Dieu a complètement renversées ? Est-ce que vous pensez à des situations où Dieu a complètement renversé cette situation ? Et combien de témoignages vont dans ce sens-là ? Et peut-être que tout à l'heure, à l'open mic, l'un ou l'autre d'entre vous pourra témoigner d'un retournement de situation opéré par Dieu. Dieu est capable de renverser les situations. Dans sa grâce, il le fait. Vraiment. C'est pourquoi face à des circonstances difficiles de la vie, face à l'adversité, nous nous tournons vers Dieu. Parce que lui peut changer la situation. Cette histoire nous encourage donc à vivre en étant confiants, en faisant confiance à Dieu, car nous savons qu'il peut changer les circonstances. Dieu n'intervient pas toujours tout de suite, mais il peut le faire. Et c'est ça qui compte pour nous. Dieu a changé les circonstances pour Naomi, pour son bien, mais aussi pour réaliser son projet. Parce que, bien sûr, l'histoire se termine bien pour Boaz, pour Ruth, pour Naomi, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et le narrateur mentionne la lignée qui va suivre et qui descend de Boaz. Une lignée qui va aboutir à un certain David, le roi d'Israël. Dieu a donc changé la situation de ces personnages en vue de cette lignée. Et le message clair que donne le narrateur au lecteur de son temps, c'est que Dieu a pris soin de cette famille pour susciter un jour un roi à Israël. Et sans doute que les contemporains de l'auteur de Ruth pouvaient en témoigner, puisqu'ils vivaient au temps de David. Dieu a pris soin de cette famille pour susciter un jour un roi à Israël. Et cette lignée est d'autant plus importante qu'elle conduit tout droit à notre Sauveur, Jésus. Comparez encore la généalogie dans le livre de Ruth, d'un côté, et celle dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1. Nous retrouvons à peu près les mêmes noms, et chez Matthieu, nous retrouvons nos personnages, Boaz, Ruth, David, et au bout de la chaîne, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Ça, c'est un dénouement inattendu. Et pour nous qui vivons après la naissance de Jésus, non seulement nous pouvons vivre confiants dans le fait que Dieu peut changer toute situation, mais aussi en étant vraiment satisfaits, en étant vraiment comblés. Même si nous avons vécu des retournements de situation dans notre vie, et nous en vivrons encore, aucune de ces situations, aucun retournement n'égale ce que Christ a accompli en notre faveur. Et c'est à ça que j'aimerais attirer votre attention encore une fois. Frères et sœurs, grâce à Christ, nous avons connu le renversement le plus éclatant. Par sa mort pour nos péchés, par sa résurrection, Jésus a gagné pour nous la faveur du Père. Et au départ, ce n'était pas gagné pour nous. Mais Jésus a gagné pour nous la faveur du Père. Ça, c'est le retournement de situation le plus éclatant de l'histoire. Et l'apôtre Paul écrit cela aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 5, versets 6 à 10. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste ? Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien ? Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. » Retournement de situation. Nous étions les ennemis de Dieu avant de le connaître, avant de le reconnaître comme Dieu. Et grâce à ce que Jésus a accompli à la croix, nous avons été réconciliés avec lui. Nous avons été réconciliés avec Dieu parce que Christ a subi à notre place le châtiment que méritaient nos fautes. Ainsi, justice est faite parce que quelqu'un a payé pour nos fautes. Et notre relation avec Dieu a changé. Nous n'avons rien fait pour cela, mais notre relation avec Dieu a changé. Christ a tout fait à notre place. Mais le résultat est là. Nous étions ennemis et désormais nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est en cela que nous démarrons une nouvelle vie en tant que chrétiens. Et cette situation est pleinement satisfaisante. Dans notre histoire, Naomi était comblée, mais nous le sommes d'autant plus. Nous sommes comblés parce que Dieu a donné son Fils pour nous sauver. Nous n'avons peut-être pas tout ce que nous aimerions posséder sur cette terre. Nous ne vivons peut-être pas toutes les expériences que nous aimerions vivre. Mais si nous trouvons notre satisfaction en Christ, tout le reste devient beaucoup moins attirant. Sommes-nous satisfaits en Christ ? L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Colosse, « Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes comblés en lui. » Et dans les versets d'après, l'apôtre Paul énumère les privilèges du croyant, parce qu'il est uni à Christ. Un nouveau cœur, une nouvelle vie, le pardon de tous ses péchés. Vous avez tout en lui, pleinement. Si en ce moment vous vous sentez insatisfait, souvenez-vous de cette parole. Vous connaissez l'expression « un éternel insatisfait » pour désigner quelqu'un qui n'est jamais content. Eh bien, sachez que grâce à Jésus, les chrétiens sont des éternels satisfaits. Et le meilleur est encore devant nous, parce que nous attendons le retour de notre Sauveur, parce que nous attendons une nouvelle terre, parce que nous attendons des nouveaux cieux. Alors soyons à la fois confiants et satisfaits. L'histoire de Ruth se termine bien pour tous les protagonistes. Le chapitre 4 est le récit d'un retournement de situation, en particulier pour Naomi, qui avait tout perdu et qui est comblée par Dieu. Et le projet de Dieu ne s'est pas arrêté à cette petite famille. Dieu avait en vue la lignée qui donnerait un roi à Israël et des siècles plus tard un sauveur pour le monde. Oui, quand Dieu renverse les situations, c'est pour le bien de son peuple et pour la réalisation de son projet. C'est pourquoi, en sachant cela, vivons en obéissant à Dieu, comme Boaz l'a fait, et assurément Boaz ne l'a pas regretté. Vivons en nous émerveillant de sa grâce, quand nous considérons qu'il nous a intégrés à son peuple, comme il l'a fait pour Ruth. Et vivons en étant confiants et satisfaits. Parce que oui, Dieu seul est capable de changer nos circonstances, comme il l'a fait pour Naomi, et ajoutons qu'il nous a comblés par Jésus-Christ. Dieu nous a donné son esprit pour que nous soyons capables de vivre ainsi. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire cet après-midi? Nous avons vu en début d'année que l'intention de Dieu, malgré la rébellion de l'homme, est de sauver l'humanité qui ne peut se sauver elle-même. Telle est la grâce de Dieu pour des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. Le livre de Ruth témoigne de cette intention de Dieu. Parce que, au-delà des affaires courantes de cette petite famille de Bethléem, Dieu était en train de réaliser un projet plus vaste, préparer la venue du Sauveur du monde. Et si nous sommes en Christ, nous sommes déjà comblés. Nous avons tout pleinement en lui. Et si vous ne croyez pas en lui, cet après-midi, Dieu vous appelle à la réconciliation. Dieu vous appelle à la réconciliation en plaçant votre confiance en Christ. Et c'est Dieu qui tend la main vers vous. Et à coup sûr, si vous saisissez cette main tendue, vous connaîtrez un grand retournement de situation dans votre vie. Alors que Dieu nous donne encore de nous émerveiller devant sa grâce immense. Amen. Je vous invite à prendre un temps pour répondre à la parole de Dieu et à ce que vous avez pu entendre et comprendre de ce que Dieu attend de vous. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore être reconnaissants pour ta parole, te remercier, Seigneur, parce que encore cet après-midi, tu nous adresses cette parole précieuse. Nous reconnaissons que tu es le Dieu capable des renversements qui nous sont impossibles. Et nous sommes déjà reconnaissants pour ton action dans notre vie et la manière dont tu as retourné certaines de nos situations. Et tout particulièrement lorsque nous sommes passés de la mort à la vie. Oui, quel retournement, Seigneur. Comment, dans ta grâce, tu as bien voulu accorder ta faveur à nous qui sommes pécheurs. Mais nous savons que ce n'est pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons tellement te remercier, Seigneur, pour cette grâce immense que tu accordes à des gens de tous les peuples. C'est une grâce, Seigneur, et nous ne savons pas toujours comment la recevoir, mais nous voulons simplement te dire merci et vivre en conséquence de cette grâce, Seigneur. Accorde-nous effectivement d'être obéissants à ta parole, comme Boaz l'a été, à ne pas contourner tes commandements, mais à faire ce qui te plaît, Seigneur, parce que désormais nous sommes réconciliés avec toi. Accorde-nous, Seigneur, de nous émerveiller chaque jour de la grâce dont nous sommes bénéficiaires, de nous rappeler chaque jour que nous ne l'avons pas mérité. Et accorde-nous, Seigneur, de pouvoir nous sentir comblés comme Naomi a été comblée, mais nous le sommes d'autant plus parce que nous avons tout pleinement en Christ. Et nous te bénissons pour cela. Et nous sommes confiants que si nous vivons des situations qui sont difficiles en ce moment, tu es capable, toi seul, de renverser la situation. Et si tu ne le fais pas, Seigneur, eh bien, cela n'enlève en rien notre confiance en toi. Parce que nous savons que ce que tu nous réserves dans l'avenir est forcément au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et cela, encore une fois, par grâce. Et c'est au nom de notre Sauveur qui intercède pour nous que nous te prions. Amen.